Et pendant ce temps, on a encore le temps de réfléchir au monde d'après le confinement, avec par exemple le CICODES, une association basée à Quimper, qu'on retrouve une fois par trimestre environ dans l'émission, une association dont le regard est international et qui peut donc nous aider à analyser le monde tel qu'il tourne, peu rond, en ce moment. Amandine Dutoit est l'une des animatrices du CICODES.
Le CICODES, en fait, qui est donc une association d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, c'est vrai qu'on peut, nous on fait un constat finalement de ce monde à l'arrêt en deux phases. C'est-à-dire qu'on peut observer des choses d'une part en France et d'autre part aussi ailleurs dans le monde, puisque la solidarité internationale est vraiment aussi au cœur de nos actions. Pour la France, en fait, on peut voir que finalement cette grande épidémie est vraiment révélatrice des fortes inégalités qu'on peut rencontrer dans notre société en France. Et met aussi en avant notre grande vulnérabilité qu'on avait peut-être quelque part un peu oubliée, vulnérabilité par rapport à cette pandémie, puisque finalement là on est tous confinés chez nous, et c'est là qu'on voit vraiment les inégalités qui apparaissent dans notre société en fait. Alors les inégalités, comment on les voit nous? Eh bien tout simplement parce qu'on voit d'abord que le confinement est à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui effectivement peuvent faire du télétravail, sont chez elles, et puis que d'autres ne peuvent pas faire de télétravail parce qu'ils doivent être sur le terrain en train de travailler. Et donc ça repense aussi finalement cette utilité du travail, quel est le travail social, quels sont les besoins en termes de travailleurs sur place en fait. C'est une première forte inégalité.
Puis il y en a plein d'autres en plus qui sont révélés, alors vraiment là par notamment en termes de conditions tout simplement de logement, sans doute.
Tout à fait. Alors nous, on fait toujours un jeu au CICODES, régulièrement on fait un jeu qui s'appelle le jeu du pas en avant, qui met finalement le public qui participe à cette animation à des petites cartes personnages qui vivent des situations différentes, qui sont alors en France ou ailleurs dans le monde, mais dans des situations différentes. Lorsqu'on interroge les participants sur leur positionnement par rapport à des items qui reprennent finalement l'accès aux droits. Donc par exemple, si j'ai une carte, un rôle d'une personne sans abri ou d'une personne en situation de handicap ou une personne âgée, qu'en est-il du droit d'avoir un logement décent, le droit de pouvoir avoir accès à des loisirs, etc. Et c'est vrai que ce jeu permettait de vraiment mettre en avant ces inégalités sociales. Et là, c'est vrai qu'on voit qu'avec le confinement, finalement, là, on n'est plus du tout dans ce jeu. Et qu'en vivant, en discutant, en s'informant, eh bien, on voit vraiment que ces inégalités sont fortes en termes de lieu de confinement.
Quelles sont-elles les autres inégalités criantes en France?
Alors, l'accès au numérique. On en parle par rapport à l'inégalité scolaire actuellement, un peu avec l'école à la maison. L'accès au numérique n'est pas pareil partout, que ce soit en milieu rural, mais dans les quartiers populaires également. Quand on parle de lieu, déjà aussi, faut-il avoir un lieu de confinement? Qu'en est-il des personnes sans abri, des personnes migrantes qui sont dehors? Donc la question est vraiment encore plus cruciale. Pour les personnes qui sont dans d'autres situations aussi dramatiques, on pense notamment aux prisons, aux centres de rétention. À l'étranger, on pense aussi aux réfugiés palestiniens dans les camps libanais, par exemple. Ces lieux de confinement sont tout à fait terribles à vivre, en fait.
Alors, il y a plein d'autres inégalités en France. Et puis, alors, puisqu'on a commencé à glisser vers le monde entier, il y a évidemment des inégalités de situation entre les pays. Il y a des gens pour qui être confiné, c'est tout simplement ne plus avoir à manger, en fait.
Tout à fait. Ailleurs dans le monde, les mêmes questions vont se retrouver, mais d'autres également. Donc, notamment l'accès à la nourriture. Les gens doivent sortir pour se nourrir, mais aussi l'accès à l'eau potable. On préconise de se laver les mains, mais quand on n'a pas accès à l'eau potable, comment fait-on? Beaucoup de travailleurs aussi dans des pays travaillent dans le secteur informel. Donc finalement, en devant rester confinés chez eux, mais ils n'ont plus aucune source de salaire et de rémunération. Beaucoup de pays ne sont pas dans la capacité de soutenir du point de vue sanitaire, d'offrir les capacités sanitaires pour aider la population malade. Donc oui, l'urgence est encore plus catastrophique que dans ces pays.
Alors là, on a décrit un peu des situations, mais finalement, il y a des questions, des débats qui commencent à émerger. Quels sont-ils ?
Alors, finalement, les questions qu'on peut avoir en tête, alors déjà, ça remet complètement en cause et puis en question nos dynamiques, finalement, les relations nord-sud. On a vu que au départ ce virus était parti de Chine, hein, puis on a vu un petit peu la montée de racisme vis-à-vis des Chinois dans nos pays. Puis quand ce virus est arrivé chez nous, ben voilà, on a regardé les choses différemment. Alors finalement, le questionnement, c'est aussi, mais quel regard va-t-on porter sur l'autre? Quelle interaction nos sociétés sont interdépendantes, interconnectées? Et il y aura des conséquences sur les relations socio-économiques, sur les relations politiques, et troisièmement, la question du changement climatique également.
Et même plus généralement, de la répartition de la planète entre les différentes espèces, de la cohabitation avec des espèces sauvages, l'environnement, ouais, c'est une question plus vaste que le climat finalement.
Oui, et quel est le lien entre ce virus et ce changement climatique? Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui étudient la question, hein. Et puis, surtout aussi, nos modes de consommation actuels qui sont mis en péril, finalement, là, on voit bien que les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production, etc., sont remis en cause. On sait leur impact sur le changement climatique. Donc, effectivement, on doit revoir, tout cela est remis en question, en fait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'enfermement des États ou des régions du monde les uns sur les autres, en fait ?
Alors, effectivement, on peut parler peut-être de repli quelque part, mais ce que nous constatons, c'est que partout dans le monde, que ce soit chez nous en Europe, mais dans les pays en Afrique, en Inde, en Chine, partout, des peuples, des hommes, des femmes se lèvent et revendiquent des droits, mettent en place des alternatives, des actions et qui sont solidaires les unes des autres, en fait. Donc, la solidarité, c'est une façon de renouer contact et de maintenir, finalement, les peuples interdépendants, mais solidairement les uns des autres.
Oui, le réseau Ritimo parle de stratégie de choc solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Effectivement, avec le réseau Ritimo, nous sommes en contact avec des associations, des mouvements qui des aides en situation, je veux dire, normale, font état de tous ces états de résistance et de toutes ces actions aux quatre coins de la planète, en fait. Et avec cette épidémie, on peut voir que ces mouvements n'ont pas arrêté leurs actions. Alors, on peut voir par exemple le collectif Chang en Chine qui propose une analyse historique de la pandémie et qui remet en cause, qui la lie avec l'agro-industrie, l'occupation des terres, en fait. Donc, toutes ces informations qui sont données d'un point de vue international sont très intéressantes à regarder et à étudier. Mais ce n'est que par une mise en réseau de toutes ces associations qu'on pourra être informé judicieusement, je veux dire.
Mais il y a déjà des actions solidaires internationales contre le coronavirus qui sont recensées, qui existent ?
Oui,
par exemple.
On peut recenser en fait des actions. Donc, par exemple, le Portugal qui a régularisé la situation des sans-papiers. On peut voir que dans d'autres pays, ce sont les loyers qui ont été gelés. On peut voir aussi des mouvements en Inde, par exemple, qui se sont organisés pour de l'entraide locale.
C'est plutôt de la solidarité locale pour l'instant, en fait, c'est ça?
Voilà, on est plutôt sur de la solidarité locale. Ceci dit, on voit apparaître également des solidarités, des mouvements internationaux, notamment alors un appel qui a été écrit et signé par tout un tas d'associations et d'acteurs internationaux pour proposer une réponse sanitaire, notamment dans l'accès aux médicaments, l'accès aux vaccins, qui soit égal, qui permette un accès égalitaire à tous. En fait.
Sur toute la planète, ouais, ce qui n'est pas toujours
sur
le cas.
Sur toute la planète, tout à fait.
Et en même temps, l'intérêt justement de la coordination, la coopération internationale, là, en matière de santé, si tous les chercheurs du monde se mettent à chercher, on aura plus de chances de trouver des remèdes ou des vaccins.
Oui, tout à fait. Et une attention doit être aussi apportée à ce que cette réponse soit accessible à tout le monde.
Et on voit se dessiner aussi des pistes de réflexion sur le monde d'après, bien sûr. Quelles sont les pistes intéressantes qu'on pourrait retenir ?
Alors, il y a déjà des pistes hein, qui, localement, on voit par exemple l'émergence de groupements un petit peu d'achats solidaires pour les achats locaux au niveau de l'alimentation, etc., qui se créent, qui ne sont pas du tout formalisés, qui se créent plutôt sur des initiatives citoyennes un petit peu comme ça aux quatre coins de la France et puis du monde. Et ça, effectivement, toutes ces réseaux-là, il faudra continuer à les soutenir et à les maintenir. On espère que tous ces réseaux, ces actions pourront perdurer, effectivement.
On est aussi dans un vaste système de la débrouille, j'ai l'impression. Et du coup, ça redonne du sens, ça en donne en plus de visibilité, notamment par exemple low-tech. Il faudrait peut-être expliquer ce que c'est.
Oui, alors les low-tech, c'est quelque part une remise en question de nos façons de vivre avec les technologies habituelles. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un monde un petit peu à la course, à la haute technologie, avec une obsolescence programmée qui fait qu'un objet en remplace un autre. Et les low-tech, finalement, repensent ce rapport à la technologie et proposent de repartir sur des technologies moins énergivores, plus respectueuse de l'environnement et qui dure davantage dans le temps, en fait. Alors, ça change beaucoup les paradigmes puisqu'on n'est pas habitué à ça. On est vraiment parti plutôt dans une consommation de plus en plus importante de technologies autour de nous, en fait. Il y a une initiative qui est aussi intéressante, c'est au niveau informatique. Il y a un site qui s'appelle Covid Innovation qui propose une analyse éthique et réglementaire des mesures numériques de surveillance. Parce que c'est vrai que dans plusieurs pays du monde, dans pas mal de pays du monde, on voit des mesures numériques qui apparaissent pour nous protéger contre le Covid-19. Alors, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de ces mesures numériques. On ne sait pas très bien hein, ce qu'on peut faire de cette surveillance et puis quelle est l'utilisation de nos données personnelles, par après, etc. Et puis de ce traçage numérique. Et cette initiative qui est internationale hein, est intéressante. Donc, cette initiative reprend finalement toutes ces actions de mesures numériques et fait une estimation de risque éthique et réglementaire. Est-ce que le risque est faible ou élevé ? Et on peut voir par exemple dans des pays, dans des régions du monde comme en Arménie par exemple, où finalement ce traçage numérique peut mettre en danger des personnes.
Les invitations à réagir ou à réfléchir au monde d'après concernent aussi les Bretons et notamment, j'ai vu que le CICODES avait signalé l'une d'entre elles, c'est la riposte créative, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ?
Tout à fait. C'est vrai que la réponse créative, c'est de se dire que finalement, dans ce monde où finalement on va beaucoup penser les choses en proposant une analyse scientifique, c'est que quelque part aussi, pour nous reconstruire, on a besoin de culture, on a besoin de poésie, on a besoin de théâtre, on a besoin d'une réponse aussi philosophique à ce qui nous arrive. Et c'est vrai que tous les acteurs culturels devront être présents parmi nous pour la reconstruction, en fait, pour l'après-Covid.
Ce n'est pas la radio qui dira le contraire.
Voilà, tout à fait. Alors aussi, hein, une des choses sur laquelle le CICODES fait très attention, et puis le réseau Ritimo également, c'est sur la façon dont on s'informe sur cette épidémie. On voit les réponses complotistes, les fake news, en fait, qui finalement se retrouvent sur les réseaux sociaux ou par mail ou par différents biais. Et là, on voit qu'il y a ce que vous faites à la radio, hein, toute une éducation à comment s'informer, une éducation aux médias, comment vérifier une source, etc., qui est importante. Et là-dessus, on devra travailler également.